Nee.
Willette.
En direct.
On est comme dans ton boulot.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Ben mine de rien, les élections s'en viennent à grands pas. Et puis là, nous, on est encore dans le mode, on regarde ça aller, on analyse, on se demande à qui on va faire confiance cette fois-là. Est-ce que ce sera les mêmes qu'à dernière? Des nouveaux? Ben, pour du nouveau, quand même, on est servi beaucoup de nouveaux visages. En fait, parmi les chefs qui sont là, à moins que je me trompe, il reste PSPP et Éric Duhem.
Oui, effectivement.
Le reste, c'est du nouveau. Donc, qui dit nouveau dit aussi nouvelles équipes. Et tranquillement, ça va s'accélérer, mais les partis commencent tranquillement à nous dévoiler de nouveaux candidats pour la prochaine élection. On a appris, entre autres, la semaine passée, que le docteur Cécile Tremblay allait se présenter pour le Parti libéral du Québec. Elle est en ligne. Docteur Tremblay, vous êtes salué. Bonjour.
Bonjour, M. Ouellet.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Très bien. Vous avez toujours pas changé d'idée?
Non, j'ai pas changé d'idée. C'est pas le genre de décision qu'on prend à la légère.
Comment on la prend, d'ailleurs, cette décision-là? On vous a connu beaucoup là, pendant la pandémie. Vous étiez très présente sur les réseaux. Vous êtes devenue ni plus ni moins qu'une personnalité publique. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se présenter? Est-ce qu'on est approché? C'est vous qui a cogné à la porte?
Bien, en fait, moi, ce que je constate, comme tout le monde, là, c'est que ça va très, très mal dans le monde. Ça va mal dans le réseau de la santé. Puis moi, j'avais des idées que je voulais proposer pour essayer d'améliorer les choses, des idées peut-être un peu simples, mais qui pourraient apporter des solutions concrètes pour les gens. Alors, j'ai approché le Parti libéral pour voir s'ils étaient intéressés à ces idées-là. Puis naturellement, on a discuté. Puis là, ils m'ont demandé si je voudrais me lancer comme candidate. J'ai réfléchi beaucoup et puis là, je me suis dit, ben écoute, il faut que tu ailles au bout de tes idées. Si tu veux transformer des choses, ben faut prendre les moyens qu'il faut. Et puis, j'ai décidé de m'embarquer dans cette course-là.
Mais là, Mme Tremblay, puis sans vouloir vous vieillir, mais vous n'êtes pas née de la dernière pluie. Vous savez que si vous voulez vraiment mettre d'avant vos propres idées dans un parti politique comme ça, vous devez avoir accès à un poste de pouvoir. Est-ce qu'il y a déjà eu une discussion là-dessus? Parce que si vous voulez changer des choses, puis on l'a déjà vu souvent, moi j'ai nombre de gens qui sont passés en politique qui m'ont dit, écoute, j'ai été député, j'étais pas dans le conseil des ministres, on m'a jamais posé la question, on m'impliquait pas dans une discussion. Donc, si vous voulez aller au bout, justement, de vos propositions, ça va prendre un poste. Est-ce qu'il y a eu cette discussion-là avec le nouveau chef?
Non, on n'a pas discuté du tout de ça. On a discuté d'idées. Que M. Milliard et moi partageons complètement. Donc, je me sentais très en harmonie avec ce qu'il voulait proposer. Et puis, on s'est dit, ben écoute, je me présente dans Sainte-Rose, je vais me faire élire comme députée de Sainte-Rose. Je vais essayer d'apporter toute la contribution que je peux, puis M. Milliard décidera le moment venu où il pense que je vais être le plus utile.
Bon, je veux pas dévoiler de grands secrets d'État, mais parce que vous me dites depuis le début là, des idées, j'ai proposé des idées. Pouvez-vous m'en donner une idée simple là, qui ferait du chemin pour le système de santé?
Bien, en fait, il y en a quelques-unes que je peux vous parler, mais la télémédecine, entre autres, une télémédecine publique à grande échelle, que tout le monde aurait accès 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, je pense que ça aiderait beaucoup pour l'accès des gens parfois qui ont juste une petite question de santé à poser puis qui sont pas certains, ou bien donc des gens qui ont des maladies chroniques puis qu'on doit suivre régulièrement mais qui ont pas nécessairement besoin d'un examen physique complet à chaque visite. Alors ça, c'est une des propositions qu'on fait. On va aller de l'avant avec aussi beaucoup, un gros programme de prévention parce qu'on sait que si on veut diminuer les besoins en santé sur le réseau, sur le système, ben prévenir vaut mieux que guérir. Alors, trop souvent, c'est oublié, ces programmes-là. Donc, on va mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a aussi toute la notion de la centralisation du système de santé. Monsieur Mignard et moi, on est parfaitement d'accord que pour être agile, un système doit être décentralisé pour pouvoir répondre aux besoins qui sont très différents d'une région à l'autre. parce que si on habite dans le milieu du Québec, c'est très différent que si on habite au centre-ville de Montréal. Les besoins sont différents. Puis là, on a créé une structure très, très bureaucratique qui centralise tout, puis qui ne va pas nécessairement combler, qui n'a pas cette agilité-là pour faire face aux défis là, que la population a présentement.
Parlant de santé, je l'ai mentionné, puis de toute façon, je pense que vous l'assumez, là, vous avez été très, très présente pendant la pandémie. On vous entendait sur les postes de télévision, dans les bulletins, dans les panels. Avez-vous fait un petit retour sur la période pandémique? Moi, je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'on aurait dû, il y a déjà plusieurs mois, là, faire un retour sur la pandémie, la gestion de la pandémie. Vous étiez très, très pro-mesure. Vous étiez quand même dans celle que j'ai entendue être le plus au bout de ce qu'on pouvait être avant de tomber dans quelque chose de très rigide et dictatorial. Là. C'est-à-dire, vous avez quand même plaidé pour la vaccination obligatoire. Vous avez beaucoup frappé sur le convoi de la liberté. Avez-vous fait un petit résumé de tout ça, un petit retour?
Bien, c'est sûr que tout le monde fait un retour à sa façon. Moi, je ne regrette aucunement mes positions d'être très... Pardon?
Confineuse, parce que, tu sais, c'est bien...
Non, c'est pas le mot que j'utiliserais. Non, okay. Là. Je voulais protéger les gens contre un virus qui tuait des gens, nos aînés, à coup de 200 par semaine, à un moment donné. Un virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas jusqu'où il veut aller. Alors, c'est important d'être plus prudent que moins prudent. Non. On a un devoir de prudence quand on ne connaît pas les choses. Alors ça, bien entendu, après ça, bien entendu, vous me dites, est-ce qu'on a fait un retour? Bien sûr. Avec le recul, maintenant que l'on sait plusieurs choses, il y a des choses qu'on ferait différemment, tout à fait. Par exemple, la question des écoles, on se rend compte que pour les enfants, c'était plus néfaste que bénéfique, étant donné que les enfants avaient une maladie qui était beaucoup moins sévère que les aînés. Oui, vous avez raison, on réfléchit, on fait un bilan, puis on regarde les pour et les contre. Mais la vaccination a sauvé des milliers de vies. De la COVID-19, virus SARS-CoV-2. Puis ça, je ne reviendrai jamais là-dessus.
Parce que d'ailleurs, vous-même, associé à une chaire de recherche commanditée par Pfizer, vous n'avez pas malaise à parler de vaccination?
Non, en fait, les chaires philanthropiques, c'est des chaires que des compagnies, ça peut être des compagnies pharmaceutiques, ça peut être d'autres compagnies, donnent un certain montant à une université parce qu'ils veulent qu'il y ait de la recherche qui soit faite dans un domaine précis. Une fois que la chaire est établie, c'est l'université qui gère ça, qui met en place un comité de sélection et qui nomme des chercheurs titulaires de ces chaires-là pour faire la recherche qu'ils veulent, la recherche qui correspond à leur programme de recherche. Or, à cette époque-là, quand la chaire a été mise en place, Pfizer est impliqué dans des médicaments contre le VIH. Alors, la chaire de recherche, elle a été instaurée pour faire de la recherche sur le VIH. Depuis ce temps-là, Pfizer ne fait plus, depuis plus qu'une dizaine d'années, ne fait plus de médicaments sur le VIH. Et la chaire continue de fonctionner avec un programme de recherche pour aider les gens qui vivent avec le VIH et d'autres maladies infectieuses, bien entendu, et qui n'a aucun rapport avec l'industrie. Alors, je pense qu'il faut clarifier les choses.
Non,
là,
mais là, Madame Tremblay, clarifions, là, mais je veux dire, ça reste que Pfizer finance une université qui vous paye. Tu sais, moi, je veux bien, là, je comprends, mais quand on me parle de médias, mettons, je prends ça puis je le transfère dans mon domaine d'expertise, là, je sais très bien qu'un média subventionné à plus de 50% à l'interne, sans même avoir besoin d'avoir de consignes, il y a quand même une espèce de non-dit. Là. On ne nourrit pas la main qui nous nourrit, mais vous nous dites que tout ça, c'est de la fabulation.
Bien, tout ça, c'est comme je vous dis, je vous explique comment ça fonctionne, les chaires de recherche.
J'ai compris,
mais
ça reste une pharmaco qui finance.
Bien, il y a beaucoup de chaires qui sont... les chaires du Canada, par exemple, sont souvent financées conjointement avec l'industrie. Et puis, on souhaite que l'industrie s'implique dans le développement puis l'innovation.
Ah oui, absolument. Madame Tremblay, le point, c'est pas ça. Le point, c'est que vous êtes venue à la télévision nous parler de vaccins quotidiennement, alors que la majorité des citoyens n'avaient aucune idée que vous étiez financé. Votre chaire de recherche était financée par Pfizer. Il n'y a pas un problème, là, de conflit d'intérêts?
Non, c'était explicitement sur mon profil Facebook et dans mon CV.
Ben oui.
Partout, vous le voyez, c'est écrit. Donc, j'ai jamais caché cette situation-là à personne.
Donc, vous auriez pas dû, à chaque fois que vous parliez de vaccin Pfizer, vous auriez pas dû le mentionner?
Ben, en fait, je parlais des vaccins en général. Hein, puis, il y avait plusieurs vaccins qui étaient disponibles. Celui de Pfizer, celui de Moderna, celui d'AstraZeneca, etc. Le principe, là, c'est la question d'utiliser un vaccin pour se protéger contre une maladie infectieuse mortelle. Alors moi, je me gênerai jamais pour si on a un vaccin qui est efficace et qui nous protège la population contre une maladie mortelle, je ne me gênerai jamais d'en parler et puis de recommander qu'on l'offre. C'est d'ailleurs, ça a été d'ailleurs les recommandations de la santé publique. Moi, tout ce que j'ai repris, c'était les recommandations de la santé publique. La santé publique est certainement pas financée par Pfizer.
Non, mais ça a été une personne, un moment questionnable dans notre histoire. Cela étant dit, je vous ramène dans le secteur de la santé parce que, bon, j'imagine que peut-être que si vous êtes élu et que le Parti libéral est élu, peut-être que vous allez avoir un poste de ministre ou pas. Mais peu importe. Tu sais, si on voit bien que le système de santé est en train de craquer. Il y a eu gros des événements, tu sais. Puis j'ai lu que vous aviez parlé qu'il ne faut peut-être pas nécessairement changer le système, mais c'est plutôt, tu sais, y aller avec la prévention et ces affaires-là. Puis je comprends que l'intention est bonne. C'est juste que concrètement, j'ai l'impression, mon impression à titre que de citoyenne et non pas d'animatrice radio, qu'on est en train de complètement perdre le contrôle dans le domaine de la santé. On a perdu cette semaine par suicide la docteure Karina Poliquin, que je ne connais pas. J'ai vu des hommages monstres sur les réseaux sociaux. On a perdu, il y a de ça quelques semaines, on a déjà oublié une petite fille de 4 ans à Gatineau, ouais. OK, qui est rentrée à l'hôpital et qui n'a pas eu les soins appropriés. Elle est morte. Ça fait quelques histoires d'erreurs, OK, de protocoles au niveau de cancer, ce que j'ai l'impression qu'arrive de plus en plus souvent. On a des médecins qui ont quitté pour s'en aller aux États-Unis. On a des infirmières qui se plaignent du comportement toxique de certains médecins. On a les CLSC qui sont là, qui ne sont plus des CLSC. On ne sait même plus à quoi que ça sert. Fait que là, je me dis, on a bien beau faire de la prévention, mais d'après moi, il y a beaucoup d'affaires à corriger. Puis là, je vous en ai nommé, là, je le sais. Là,
oh, oui, oui, oui.
Vous pouvez appeler M. Paul Brunet, là, directeur de la protection des malades. Là, il y en a beaucoup d'histoires.
Ça donne le vertige, mais c'est juste que je n'aime. Des fois, j'ai l'impression, je vais juste terminer, j'ai l'impression qu'on nous dit constamment, ah, si on pouvait faire de la prévention, mais oui, mais ça se peut-tu que... Comment ça se passe présentement? On est en train de perdre le contrôle. Puis à un moment donné, il va falloir utiliser les bons mots au lieu de constamment contourner la vérité pour faire semblant que hey, c'est pas si pire.
J'ai loin d'avoir dit que c'était pas si pire. Au contraire, j'ai dit que ça allait très mal. Et puis, je vous ai donné un exemple tantôt de ce que l'on va proposer. Vous savez, la prévention, c'est très large. On parle aussi de prévention d'accidents, de prévention d'erreurs. On parle de prévention à un très, très grand niveau. Mais vous avez raison, c'est pas suffisant. C'est pas que ça qu'il va falloir faire. Il va falloir, quand on a un réseau là, qui est à bout de nerfs, qui est sous tension, qui manque de personnel partout, c'est sûr que ça fait un terrain propice pour qu'il y ait des erreurs, que le personnel quitte, etc. Donc, il va falloir faire un grand bouleversement dans notre réseau pour faire en sorte de faire un climat qui est beaucoup plus serein, que les gens aient le goût de rester, qu'on engage du personnel supplémentaire parce qu'on est en pénurie absolue au niveau des infirmières, au niveau des préposés. Plus on met les gens sous tension, plus il y a des risques d'erreurs. Vous avez parfaitement raison, il faut adresser ces problèmes-là de front, mais je ne peux pas vous donner tout le détail là, de ce qu'on va proposer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Vous allez voir des recommandations très précises et puis on va pouvoir avancer à ce niveau-là.
Sans nous donner là, de révélation ou sans nous promettre que ça va arriver au Parti libéral, pouvez-vous me dire votre opinion du privé en santé?
Moi, je pense que c'est inacceptable que quelqu'un ait à débourser de sa poche 20 000 $ pour se faire remplacer une hanche au Québec.
Je vous arrête tout de suite parce qu'on débourse déjà de nos poches. Je vais vous envoyer mon T4. Là, j'ai une énorme portion d'argent qui sert à financer la santé et je n'ai pas eu de soins dans les dernières années.
D'autant plus... Si vous trouvez que vous payez beaucoup avec vos taxes, il faut que vous en ayez pour votre argent avec vos taxes. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse utiliser notre système public à son maximum et pas verser l'argent de nos taxes à un secteur privé.
Non, mais, mais pas nécessairement dans le modèle actuel, dans le privé qui pourrait peut-être apporter autre chose de la gestion des hôpitaux, la gestion des employés, ouvrir, là, pas nécessairement juste avoir des cliniques où on déborde des gens pour parce qu'on n'est pas capable de fournir. Est-ce que vous voyez, en fait, je vais reposer ma question, est-ce que vous voyez dans le système de santé un endroit où le privé pourrait nous aider?
Il y a certainement des endroits où le privé peut nous aider. On a construit, par exemple, le CHUM puis le CUSUM en partenariat public-privé dans la construction des édifices. Ouais. Moi, ce que je veux, avant tout, c'est de faire fonctionner notre système public le mieux possible. Là, comme vous dites, on met nos taxes.
Ça fait 40 ans qu'on est là-dessus.
Oui, bien, on peut améliorer. On peut améliorer.
Oui, mais... Ouais. Mais je veux le dire, je suis porte-parole d'un service au privé, OK, à une clinique d'infirmière. Fait que je vais être franche. Et je suis allée cette semaine les voir pour les différents services, OK? Et les gens paient au privé parce que le service est là et c'est facile. Tu sais, tu t'en vas là, au centre d'infirmière, puis tu as tous les services que tu veux, un vaccin, un suivi, un bilan, t'es malade, t'as mal à la gorge, peu importe, OK? Et le service est rapide et efficace. Constamment, j'entends que le privé, c'est le problème, mais pas le public. Est-ce que le public pourrait s'inspirer du privé au lieu de dire que le privé est juste une nuisance? Parce que quand je vais au privé et que je débourse, et je sais que ça n'a pas de bon sens de débourser, mais j'en ai besoin du service. Je ne veux pas être malade pendant 8 semaines. Je veux le régler, mon problème.
On peut certainement s'inspirer des bonnes pratiques, certainement, puis faire en sorte qu'on soit plus efficient dans notre système. Moi, je suis bien d'accord
mais
avec
c'est
vous.
C'est quand ça va arriver? Parce que les libéraux ont déjà été au pouvoir.
Oui, mais ça change.
Ouais, on a eu deux médecins à la santé, là, back à back.
Oui, puis on a eu qui n'était pas médecin, M. Dubé, puis vous voyez qu'est-ce que ça a donné comme résultat.
Ben, pas mieux.
Alors
pas
moi, tout ce que je peux, pour moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a beaucoup de choses à améliorer, puis oui, il faut s'inspirer des bonnes pratiques, puis il faut essayer de couper un peu dans notre bureaucratie qui fait en sorte que notre système n'est pas agile. Il faut avoir un système agile qui est capable de répondre aux besoins de la population.
Mais je la trouve importante, la question, puis je veux qu'elle soit directement répondue, mais je la trouve importante pour les gens qui vont aller voter. Est-ce que vous êtes contre le privé? Je veux savoir c'est quoi votre pensée à ce propos-là. C'est important.
Moi, je pense que la santé, c'est un droit, que tous les citoyens doivent avoir droit à des services de santé de façon égale. Et je ne pense pas que les citoyens devraient avoir à payer de leur poche de l'argent supplémentaire pour aller chercher des services dont ils ont besoin. C'est notre responsabilité de leur fournir ces services-là.
Docteur Tremblay, vous présentez dans Sainte-Rose à Laval. C'est un endroit qui est de plus en plus multiculturel. Laval accueille énormément d'immigration. J'aimerais avoir votre pensée sur l'immigration au Québec. On sait que les libéraux en veulent toujours un peu plus. Vous pensez quoi de l'immigration de masse au Québec? C'est un débat quand même assez important dans les temps qui courent. Alors qu'on regarde en Europe, on regarde ce qui se passe. J'ai des chiffres ici vérifiés, vérifiables, qui viennent directement des départements et des gouvernements d'Europe. Des endroits comme l'Allemagne, où on a vu les taux de viol et d'agression sexuelle depuis cette immigration de masse-là exploser. Votre position sur l'immigration au Québec?
D'une part, moi, je ne crois pas que lancer des chiffres d'immigration, là, ça donne rien parce que les gens, les gouvernements respectifs ne respectent même pas les chiffres qui se sont donnés. Hein? Le PQ a lancé des chiffres, la CAQ a lancé des chiffres, et puis finalement, c'est pas ça qui arrive. Donc, la première étape, c'est de regarder quels sont nos besoins en immigration, par région, par secteur d'activité, puis s'assurer que l'on accueille les gens dont on a besoin pour faire fonctionner la société, puis qu'on est capable d'intégrer à notre société. Alors moi, je pense que si on y va avec une approche rationnelle, rigoureuse, je pense qu'on n'aura pas de problème de surpopulation d'immigrants.
Mais ça, tout le monde nous dit ça, Mme Tremblay. Tout le monde nous dit ça. La CAQ nous a dit qu'ils l'ont fait, le calcul, là. Puis il me semble, de mémoire, c'est 35 000 par année.
Ben là,
mais les libéraux arrivent avec 60 000.
Il y avait trois chefs différents au débat de la CAQ là, il y a deux semaines là, sur l'immigration. C'est pour ça que je me dis, moi, ça ne donne rien de lancer des chiffres comme ça. Puis d'une part, j'aimerais vous reprendre sur la question que les immigrants sont responsables de viol. C'est pas vrai.
C'est absolument pas vrai.
Les crimes, la majorité des crimes qui sont commis, là, la majorité, c'est toujours par des gens qui viennent du pays en question. Alors,
Madame Tremblay, je ne vous laisserai pas dire des choses. Ben, je vais vous donner les chiffres, vous irez les vérifier, les chiffres. Pardon?
Oui, je pense que j'ai une réunion bientôt, alors il me reste quelques secondes à vous consacrer, là, alors je vais
ben, j'ai conclure. Des chiffres vérifiés, vérifiables, là, que j'ai sortis carrément des datas des gouvernements allemands, français, anglais, où on apprend que dans les 25 dernières années, en France, entre autres, il y a eu 7500 déclarations de viol en l'an 2000, et aujourd'hui, on est à 42 400. On ne peut pas juste expliquer ça par le hockey puis les masculinistes, là.
Ben, voilà, on pourrait expliquer les féminicides par le masculinisme, par exemple.
Ben, pourquoi le changer de sujet?
Ben, parce que vous me lancez des chiffres comme ça qui ne sont pas réels. Là, c'est pas les immigrants qui ont commis cette méthode.
Des chiffres qui sont pas réels?
Oui.
J'ai pas dit les immigrants ont fait tout ça. J'ai dit depuis qu'on a ouvert les frontières.
Mais
d'ailleurs,
c'est un peu ça que vous insinuez.
Ben d'ailleurs, Madame Tremblay,
ces chiffres-là,
la Pologne, ben c'est des chiffres que j'ai pris sur les sites des gouvernements en Europe.
Oui, il y a eu des viols, on le sait qu'il y a des viols. Mais
une explosion de viols, madame, de 7500 à 42 000, c'est pas plus de viols.
Écoutez, M. Ouellet, ça m'a fait plaisir
La Pologne n'a pas fait ça et la Pologne est en diminution au niveau des crimes sexuels. Il n'y a aucun lien.
Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une réunion. Je n'avais pas prévu de passer autant de temps avec vous, mais ça m'a fait plaisir de vous parler.
Donc, il n'y a pas aucun lien. Allô?
Ah oui?
Il n'y a aucun lien.
Non.
OK. Merci, Mme Tremblay. Bonne chance pour votre vie politique. Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Bon. À point, mais ça.
Non.
Non, mais regarde, c'est quoi, là? On parle pas de ça. Hein?
Non.
C'est ça, le Québec?
Non.
Mais on parle pas de ça. Je laisserai pas dire des faussetés. Il n'y a pas aucune fausseté, là. Mm. Ça, c'est insultant. Je vois le vert, by the way. Mm. OK. Bon, ben parfait. C'est des faussetés. C'est ça. Donc, bientôt, Mme Tremblay vous dira que Radio X, c'est une radio de complotistes. C'est ça?
Ben, c'est parce que c'est...
La confineuse.
Ben, d'ailleurs, je l'ai rappelé, là. Mais, écoute, je sais pas, elle peut-être pas aussi... Mettons, là, on jase. Je
pensais pas parler d'immigration à ma midi. Ben... OK. Ben, moi, je m'excuse, mais tu te présentes pour le Parti libéral.
Ouais.
On est au Québec, c'est un enjeu majeur. C'est sûr que même si vous êtes docteur, on va parler de santé, mais on va parler d'autre chose. Vous voulez vous mettre le nez en politique, on va jaser de politique, là.
Mais moi, il y a une affaire que je ne comprends pas.
Oups, Pat, j'ai une réunion.
Oui.
Excuse-moi, il va falloir que j'y aille.
Mais c'est quoi la patente du masculiniste?
Je sais pas.
Non, mais j'aimerais ça. Peut-être qu'il y a des choses que je vois pas. Tu sais, je suis pas à l'école. Moi, j'ai pas 13 ans. J'en ai 40. Peut-être que ceux que je côtoie, c'est tellement pas ça. C'est peut-être quelque chose qui existe et que je ne vois pas. Puis c'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas. Je suis prête à l'accepter. Mais je sais pas pourquoi tout le monde dit ça, mais il y a personne qui m'explique en me donnant des exemples. C'est comme un mot à mode. C'est comme pour dire les hommes, tu sais...
D'ailleurs, Pat, sais-tu quoi?
Ouais.
On va en parler tantôt des féminicides. Ça s'en vient.
Bon.
Peut-être pas l'angle qu'aurait aimé Mme Tremblay, là. Mais on va en parler parce que oui, il faut adresser ça, ces affaires-là. Mais moi, je pense qu'en ne donnant pas l'étendue complète de la carte, ben tu te rendras nulle part.
Ben,
si c'est pas par où passer, si tu connais pas les chemins, puis si tu refuses, non, ce chemin-là, j'y vais pas!
Ouais.
Ah ouais? Ben peut-être que tu passes à côté d'une maudite bonne raison d'y aller.
Ben, il y a un éléphant dans la pièce, puis je pense pas qu'on ait...
Ben, tu sais quoi, l'éléphant? C'est que Madame Dr. Cécile Tremblay, elle se présente dans Sainte-Rose. Il est là, l'éléphant.
Ouais.
Ça me parle d'immigration, elle est faite. Faut gagner ça, ces élections-là, hein? Oups, j'ai une réunion. On revient.
Ouellette, en direct.
Radio X.